les chemins de traverse, il était une fois une fée jaune, l'agent Cyan. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans le Massif Central à la découverte de l'agent Cyan, la reine des estives. Lors du précédent épisode, nous étions à Clermont-Ferrand, chez un licoriste, Genestine. Nous voilà de retour au pied du Sancy, à Picherande, où nous allons à nouveau déambuler dans la rue principale de ce charmant village, où tous les ans pour le 15 août, a lieu la fête de l'agent Cyan.
L'agent Cyan, c'est très bon.
Ça se passe bien ?
Très bien.
Bon.
Cette fête de Picherande.
Ah ben c'est la 15e édition de la fête de Picherande, c'est tout un symbole parce que 15 comme le Cantal. Et ça fait ma 15e édition aussi pour moi puisque j'étais de la première. Et nous l'a rendu 15 ans plus tard avec plus d'exposants, plus de participants, c'est super.
Jean-Jacques Vermersch de la distillerie Coudert.
C'est une très belle fête et puis ça rassemble tous les professionnels autour de l'agent Cyan. Donc c'est l'occasion annuelle de se retrouver également. Voilà, et puis de faire découvrir cette plante magnifique.
Et ce qu'on en fait avec.
Et ce qu'on en fait avec, voilà. Ça, c'est important aussi. Hein.
Et pour vous qui êtes vice-président de l'association Jean Siana Lutea, c'est une occasion aussi de revoir tout le monde, quoi.
Oui,
enfin,
voilà.
Certains.
Oui, c'est l'occasion de parler aussi de l'interprofession, puisqu'on a une exposition. On présente toutes les vertus de l'agent Cyan, l'histoire et le travail de l'interprofession depuis 10 ans maintenant. C'est un beau moment de partage.
Alors là, nous sommes devant la distillerie artisanale L'Eau Folle. Ils vont nous expliquer ce qu'ils font.
Distillerie L'Eau Folle, moi c'est Lucas.
Et moi c'est Rudy.
Vous venez d'où ? Parce que vous êtes pas du Cantal, hein, ni du Puy-de-Dôme d'ailleurs.
Pas du tout. On a fait quasiment 5 heures de bagnole, on vient de Savoie.
Et en Savoie, il y a de l'agent Cyan ?
En Savoie, il y a de l'agent Cyan, contrairement à ici, on n'en a pas encore vu.
Alors qu'est-ce que vous entendez par là, contrairement à ici ?
On regarde un peu dans les prés, on regarde un peu dans les talus, mais j'ai pas l'impression que... Je sais pas si c'est pas une légende, l'agent Cyan, dans le coin.
Bah, c'est qu'elle a fleuri, c'est fini.
Ouais, on nous a dit ça, on nous l'a déjà servi, celle-là, mais...
Chez nous, elle est pas encore fleurie, pourtant en altitude, on est à peu près pareil, ouais. Un petit peu plus haut...
Je peux vous dire qu'il y en a, parce que je suis allé en arracher justement il y a 3 semaines à côté de la Lanche. Donc, et puis j'ai arraché ma racine, donc je peux vous dire qu'il y en a. Par contre, il n'y avait plus de fleurs, ça c'est clair.
Ah ouais. Bah nous en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on attend la fin de l'été, on attend les périodes où il fait moins chaud. Nous on ramasse un peu dans les pentes, c'est pas sur des plateaux comme ici. On ramasse dans les pentes et du coup ça a vite fait à prendre le soleil quand il fait chaud en journée. Donc on attend plutôt le fin septembre, début octobre, c'est plus tranquille.
Souvent dans les prés à vaches, du coup on attend que les vaches soient redescendues de montagne pour les ramasser.
Et puis avant que la neige arrive aussi.
Donc vous, ça s'appelle L'Eau Folle.
Ouais.
Alors pourquoi L'Eau Folle ?
Ce qu'on appelle L'Eau Folle par chez nous, vas-y, tu veux y aller ?
Vas-y.
Non mais... Bon, L'Eau Folle par chez nous, c'est ce qui sort de l'alambi. En fait, on a des alambis qu'on appelle à repasse. Tout ce qu'on distille, on le distille 2 fois. C'est-à-dire que la première fois, on met les fruits dans la cuve, on les distille, et ce qui sort de l'alambi la première fois, c'est ce qu'on appelle L'Eau Folle. C'est un truc qui n'est pas assez fort en alcool, c'est pas assez concentré en arôme et il faut le redistiller. Ça a des noms variés, je sais pas comment on l'appelle par ici. Je sais que dans le sud-ouest, ils appellent ça le brouillis.
Oui, tout à fait.
Mais nous, c'est L'Eau Folle en tout cas pour nous.
Et donc, la distillerie L'Eau Folle, vous travaillez entre autres l'agent Cyan.
On travaille l'agent Cyan, ouais, bah par chez nous, on en boit quand même bien. Ouais. C'est un truc qui se buvait bien à l'époque, c'est un truc qui est de plus en plus rare, je pense, l'agent Cyan par chez nous.
Bah là, l'agent Cyan, enfin nous on l'a fait sous 2 formats, du coup on a l'agent Cyan distillé, du coup fermentation de la racine et ensuite distillation. Mm-hmm. Et on a l'agent Cyan, comme vous faites par ici, en macération, du coup plus type apéro, moins fort en alcool, un peu sucré. Et ça revient bien à la mode chez les jeunes, chez nous, l'apéritif. Les jeunes chez nous boivent que ça, presque. Je pense qu'ils boivent plus d'apéritifs de gentiane que de bière, presque. Alors que la gentiane distillée, ça reste quand même bien un truc d'ancien.
Oui, puis c'est pas le même degré, ça fait quand même un peu...
Ouais, ça fait 50 de 45, degrés, ouais, voilà. c'est un peu plus un truc d'âme, quoi.
On voit pas ça forcément au même
moment.
C'est
marrant, parce que quand on est arrivé ici, les gens, ils connaissent pas trop les gentianes distillées par ici.
Non, ils font pas, quasiment
non,
pas.
Ils font pas.
Et puis ils font pas d'eau de vie de gentiane.
Non. Alors que par chez nous, quand on demande une gentiane, c'est ça qu'on nous sert.
Ah oui, donc ça peut surprendre le gars du coin hein, qui va par chez vous.
Ah bah les gars du coin, ouais. Mais ils aiment même pas trop, hein, par ici. On leur a fait goûter, c'est pas trop leur truc.
Et vous, comment ça vous est venu l'idée de vous lancer là-dedans ? du moins dans la distillation, puis après, la gentiane, je pense que c'est parce que c'est chez vous, mais au moins dans cette activité.
La distillation, enfin, on a toujours été plus ou moins baigné dedans. En fait, chez nous, tout le monde l'été va ramasser son genépi, tout le monde fait sa liqueur de genépi chez lui. Et du coup, on a vraiment toujours été baigné là-dedans. Et du coup, un jour, on distillait comme ça chez des anciens, un peu dans la cave, dans le feutré. Et on s'est dit pourquoi pas tester de faire ça professionnellement. Déjà, on prendra moins de risques.
Et la gentiane que vous utilisez, c'est vous qui allez l'arracher ou vous l'achetez ou...
Non, c'est nous qui allons l'arracher. On a la fourche, un peu comme ici, qu'on appelle la fourche du diable aussi. Le but, c'est en fait de sortir la racine la plus intacte possible, en fait. La plus grosse et la plus intacte. Mm-hmm. Il faut savoir que la gentiane, ça pousse pas... C'est pas rectiligne, en fait. Il y a la fleur qui pousse en surface, il y a la racine qui pousse sous terre, mais c'est pas aligné. La racine pousse pas dans la continuité de la fleur. Elle pousse... Elle s'étend... Ça ressemble pas à grand chose, hein, d'ailleurs, c'est difficile à décrire, mais c'est tentaculaire comme truc. Il y en a de tous les côtés. Et donc, en fait, on va essayer de sortir le bloc le plus intact possible. Et ça, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Mais par chez nous, attention, c'est encore pas comme par là. Là, j'ai l'impression que c'est un peu des plateaux, c'est un peu plat. C'est le boulot tranquille.
C'est physique quand même. Hein.
Nous, il faut monter la fourche sur le dos, c'est raide.
C'est dans les pentes, vous disiez.
Ah, c'est vraiment dans les pentes. Vraiment.
Oui, donc ça se mérite.
Ah, une bonne gentiane, ça se mérite, c'est sûr. Voilà. C'est sûr.
Donc une fois que vous l'avez arrachée, qu'est-ce que vous en faites ? Vous la ramenez à la maison ?
Une fois qu'on l'a arrachée, on la ramène à la distillerie. Du coup, on la pose quelques jours sur des bâches, en fait, pour que la terre qui est autour sèche. On la tape. Ensuite, on la met dans des bacs, on les brosse une par une dans l'eau. Et une fois qu'on a brossé, qu'elles sont bien propres, bien nettoyées, on les broie. Et là, on les met dans des bidons et elles partent en fermentation pour 5-6 mois, selon le sucre qu'il y a dedans. Enfin, mais ouais, c'est plutôt vers les 6 mois. Et là, fin de fermentation, on les distille. Et en termes de rendement, pour l'eau de vie, c'est vraiment minable. Ça donne envie de pleurer.
Ah oui, c'est quoi comme rendement ?
En rendement, on est sur du 100 kg de racines fraîches pour 1 litre de produits finis.
Ah d'accord, ah oui.
En fait, on ajoute, il y a vraiment que la fermentation de la racine qui rentre en jeu, on n'ajoute pas de sucre parce qu'on n'a pas le droit.
C'est le sucre qui est naturellement présent dans la racine qui fabrique de l'alcool. Pardon.
Vous étouffez pas avec le bleu d'Auvergne.
Un bon bleu d'ailleurs.
Ouais, sacré bleu.
Sacrément bleu.
Et pour les ramasser, vous avez des terres à vous ou vous allez chez des particuliers ? Comment ça se fait ? Il y a des autorisations ?
On a demandé... Alors, il y a plusieurs cas de figure. On a demandé aux agriculteurs du coin s'ils avaient des terrains à nous filer. Parce que la plupart des surfaces sur lesquelles les gentianes poussent, c'est les surfaces que les vaches mangent. Ouais. Et du coup, en fait, les vaches, elles mangent toute l'herbe qui est sur le pré, sauf les gentianes. Elles n'aiment pas ça, elles n'en mangent pas. Donc on va un peu là-bas, ou alors on a demandé aux communes d'à côté si on pouvait aller ramasser sur les terrains communaux. D'accord. Mais on la ramasse sous dérogation préfectorale. Ici, il paraît que la cueillette de la gentiane est libre, mais chez nous, c'est pas libre du tout, c'est une plante protégée. On la ramasse sous dérogation, nous. Alors, en début de période de ramassage, on est obligé de faire une déclaration à la préfecture qui ensuite valide ou pas les quantités qu'on a prévu de ramasser.
Et puis je rentre alors pour vous.
Ah, Picheron, c'est le beau pays. Il y a une belle vue dégagée sur les plateaux, là-haut. Ça a de la gueule. Les maisons ont du style. Le bleu est bon.
Bon, ben, très bien. Merci.
Bah non, merci à toi.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
En face du stand de l'eau folle, celui de l'association interprofessionnelle de la gentiane jaune, Gentiana Lutea.
À partir du moment où vous êtes sous le barnum, là, c'est déjà bien de vous donner quelques informations sur l'association. Donc, c'est une interprofession qui a un dynamisme assez important, puisque il y a une dizaine d'années, il n'y avait rien.
Pour nous parler de cette association interprofessionnelle, Stéphanie Flau, son animatrice et coordinatrice, Drissi Marbou, un des administrateurs, et Patrick Deschamps, retraité, ancien directeur des achats de Pernod Ricard.
Je m'appelle Stéphanie Flau. Je suis animatrice de l'association Gentiana Lutea, qui est l'association interprofessionnelle de la gentiane jaune. Et en fait, je suis salariée du CEPARM, qui est le comité des plantes à parfums aromatiques et médicinales, qui est basé à Manosque.
Et comment ça se fait que l'association dont on va parler au fil de notre rencontre dépend du CEPARM? C'est parce que ça reste une plante aromatique malgré tout et...
Oui. Tout a débuté quand je suis arrivée à Clermont-Ferrand. J'ai fait une formation en agriculture bio. Et dans le cadre de cette formation, j'ai eu l'occasion de réaliser un stage chez un adhérent de la Sicarapam qui souhaitait mettre en place un essai de culture de gentiane.
D'accord, la Sicarapam qui est la coopérative...
Coopérative de producteurs de plantes aromatiques et médicinales ici dans le Massif central et dont les adhérents sont essentiellement des cueilleurs. Il y a des cultivateurs. À l'époque, il y avait déjà une réflexion, en tout cas à la Sicarapam, sur la durabilité de la ressource. On était à un moment où on savait qu'on en prélevait beaucoup dans la nature. Les cultures, c'était quand même assez anecdotique, les cultures de gentiane. Et on entendait un petit peu tout et son contraire sur l'état de la ressource. Elle était très menacée, ou alors non, pas tant que ça. Voilà. Donc en fait, il y avait très peu de données sur l'état de la ressource. Et cette réflexion avait mûri un petit peu au sein de la Sicarapam. Donc quelques années plus tard, le projet a vu le jour. La Sicarapam étant un petit peu parti pris puisque elle comptait dans ses rangs des arracheurs de gentiane, le projet a été confié au CEPARM. Et donc j'ai été embauchée par le CEPARM pour travailler sur ce projet-là.
Et c'est suite à ça après que l'association interprofessionnelle de la gentiane, de gentiane à l'UTA, s'est créée.
Oui, donc le projet a débuté en 2010. Il y a eu toute une phase d'état des lieux, de la filière, des pratiques, de leur impact sur la ressource, identification des acteurs de la filière, un travail sur les quantités qui sont prélevées dans la nature, sur ce qui est mis en culture, toutes ces données dont on n'avait aucune idée en fait. Et puis, à un moment donné, on a réussi à identifier un certain nombre d'acteurs de la filière qu'on a invité à une réunion dont l'objectif était de réfléchir sur la valorisation d'une gentiane produite de façon durable. Ça, c'était fin 2013. Et donc, les acteurs qu'on avait identifiés et invités ont répondu vraiment présents à cette invitation. Et on souhaitait créer l'association interprofessionnelle de la gentiane jaune, qui a finalement vu le jour en mars 2014. Donc à partir de mars 2014, le travail de la mission gentiane se poursuit, mais en collaboration avec les acteurs de la filière, à travers l'association gentiane à l'UTA.
Mais comment est organisée cette association interprofessionnelle de la gentiane jaune?
On a créé différents collèges au sein de l'association. On a le collège des propriétaires gestionnaires fonciers, où on va retrouver des éleveurs, des communes, ça peut être l'ONF aussi, des acteurs qui sont amenés à gérer la ressource sur pied, c'est-à-dire qui ont de la gentiane qui pousse sur leurs estives. C'est un collège très important parce que ce sont ces acteurs-là qui vont pouvoir gérer cette ressource et puis autoriser son exploitation ou non. Et ce sont les pratiques de ces acteurs-là qui vont favoriser ou non la plante sur pied.
Oui, ils sont à la source. Quoi.
Donc ils sont à la source, c'est vraiment maillon essentiel, bien qu'on ne peut pas parler à proprement dit de professionnel de la gentiane du coup.
Oui, parce que ça reste une plante sauvage.
Oui, puis ce sont des éleveurs, des communes.
C'est pas leur métier, quoi.
Voilà, c'est pas leur...
Ils ont ça sur leur terrain, entre autres, sur leurs estives.
Voilà. Le deuxième maillon, ce sont les arracheurs de gentiane ou les cultivateurs, même s'il n'existe pas beaucoup de cultures. Le troisième collège, ça va être les exploitants gentiane, collecteurs, négociants, grossistes. Le quatrième collège, on va avoir les transformateurs de gentiane, entreprises utilisatrices, metteurs en marché. Et puis, le cinquième collège, ce sont nos membres experts qui sont généralement des passionnés de gentiane qui mettent au service de la filière leurs connaissances, leur savoir-faire. Souvent des personnes scientifiques qui nous accompagnent dans nos projets.
Oui, qui amènent un autre œil, un autre regard. Je vous laisse regarder l'exposition sur la gentiane sous le barnum de l'association et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Au revoir et à très bientôt.